VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Afrique de l'Ouest a arrivé aujourd'hui à Ouagadougou de l'Australienne Jocelyn Elliott, relâchée samedi grâce à l'aide du Niger après avoir été kidnappée avec son mari médecin à la mi-janvier au Burkina Faso par des djihadistes liés à Al-Qaïda. L'ex-otage australienne âgée de 84 ans déclare vouloir retrouver son mari et rester au Burkina Faso. Alan Botson.
Madame Elliott et son mari, Arthur Kenneth Elliott, avaient été enlevés à Djibo, dans le nord du Burkina, à la frontière avec le Mali et le Niger, dans la nuit du 15 au 16 janvier, lors d'une action apparemment coordonnée. Cette nuit-là, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, des attaques djihadistes contre le café-restaurant Cappuccino, les hôtels Splendide et Yibi et un bar avaient fait 30 morts et 71 blessés. Dans la journée du 15 janvier, une attaque contre des gendarmes avait également fait 2 morts à Tinakoff, dans le nord. L'enlèvement du couple australien avait été revendiqué par Ansar Dine, groupe djihadiste de l'ex-chef rebelle touareg malien Iyad Aghali, au nom de l'émirat du Sahara. Selon des spécialistes des milieux islamistes, cette appellation désigne une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les époux Elliott vivaient au Burkina depuis 1972 et étaient engagés dans des opérations humanitaires en faveur des populations de la province du Soum et celles des pays voisins du Mali et du Niger. Le docteur Arthur Kenneth Elliott reste encore aux mains de ses ravisseurs.
Au Mali, la plateforme pro-gouvernementale et la coordination des mouvements de l'Azawad sont tombés d'accord pour cohabiter pacifiquement à Kidal, fief des anciens rebelles Touareg. Des centaines de membres de la plateforme, une coalition de groupes armés soutenant le gouvernement malien, sont entrés sans violence le 2 février à Kidal. Ces deux groupes se sont battus plusieurs fois dans le passé, malgré l'accord de paix conclu après des mois de négociations à Alger.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale, au Tchad, libération aujourd'hui d'une vingtaine de manifestants qui avaient défilé samedi à N'Djamena pour protester contre la répression de la jeunesse avant d'être arrêtés. C'est ce qu'annonce le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, Kamoujet. Le procureur de la République et le directeur de la police judiciaire sont venus à notre lieu de détention pour nous annoncer que nous sommes libres, a déclaré à l'AFP Hervé Pando, membre de l'une des associations des droits de l'homme arrêté avec 22 manifestants. Côté gouvernement, le procureur de la République affirme, et je cite, « Pour le moment, le ministère public n'a pas souhaité engager des poursuites contre les personnes arrêtées. Nous ne pouvions donc que les libérer », a-t-il ajouté. Rappelons que le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, avait dénoncé l'arrestation des manifestants et réclamé leur libération immédiate. Au Sénégal, reprise du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Les audiences entrent dans leur deuxième phase avec les plaidoiries des parties civiles et des avocats de la défense, entrecoupées du réquisitoire du parquet général jusqu'au 12 février. Hissène Habré est jugé depuis juillet pour crime contre l'humanité devant un tribunal spécial africain siégeant à Dakar. Et puis en RCA, troisième jour de la campagne électorale ce lundi, dans le cadre du second tour de la présidentielle, alors que les deux candidats vont à la rencontre des électeurs à Bangui et à l'intérieur du pays, les alliances politiques se multiplient en leur faveur. La bataille s'annonce donc serrée le 14 février, prochain jour du vote. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
À la différence de la campagne électorale pour les législatives, plutôt timide, la campagne pour le second tour de la présidentielle est bien mouvementée. Lancée le 6 février, les deux candidats n'ont pas attendu pour solliciter les suffrages de quelques 2 millions d'électeurs centrafricains. Alors que le candidat Faustin Archange Touadéra se lance à la conquête des électeurs de Bouar, Bozoum et Bossangwa, le même samedi, jour d'ouverture de la campagne électorale, le collectif des candidats à la présidentielle tient un grand meeting en sa faveur au point zéro au centre de Bangui. Jean-Baptiste Koba, candidat du mouvement social de l'évolution de l'Afrique noire, Messane, à la présidentielle du 30 décembre 2015.
Mais je vais vous dire une chose, Faustin Touadéra va nous rendre riches. Il va nous rendre riches d'abord nous-mêmes. Faustin Touadéra va nous rendre riches de sécurité.
De son côté, le candidat nicéen Georges Dologuélé a reçu dimanche un soutien de taille, celui du Rassemblement démocratique centrafricain de Désiré Bilal Zanga Kolimba, sorti troisième à l'issue du scrutin présidentiel du 30 décembre. Désiré Bilal Zanga Kolimba.
Lors du premier tour de ces élections, le RDC et moi avions défendu, conformément aux idéaux de notre parti, l'homme de Centrafrique. Aujourd'hui, le peuple a décidé. Nous en avons pris acte. Voilà pourquoi le Rassemblement démocratique centrafricain a décidé de dire oui. Le RDC dit oui au Rassemblement et à Anissé Georges Dologuélé.
Un autre soutien non négligeable à Anissé Georges Dologuélé, l'appui de 5 groupements syndicaux des travailleurs. Dans les Jeux d'Alliance, le mouvement de libération du peuple centrafricain de Martin Ziguélé, 4e suite au premier tour de l'élection présidentielle, et le cadre de concertation élargi des plateformes, partis, associations politiques et personnalités politiques indépendantes ont exprimé leur soutien à Faustin Archange Touadéra. La bataille s'annonce donc très serrée pour le second tour du 14 février. L'autorité nationale des élections appelle les deux parti à l'apaisement. Sa présidente, Marie-Madeleine Coué-Ornaillère, invite les différents candidats au respect du code de bonne conduite.
Les scrutins du 14 février 2016 constituent l'une des solutions de sortie de crise de la République centrafricaine, notre beau pays. À ce titre, nous devons tout mettre en œuvre pour consolider la paix et les valeurs de vivre ensemble. L'autorité nationale des élections en appelle donc à votre esprit de civisme, de discipline et de non-violence pour que la campagne se déroule dans un climat apaisé.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Toujours concernant la Centrafrique, Amnesty International, dans un nouveau rapport rendu public aujourd'hui, dit craindre un risque de continuation des violences meurtrières et de l'instabilité. L'Organisation de défense des droits de l'homme basée à Londres demande donc de tirer les conséquences des lacunes de la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, et de songer à les combler de toute urgence. Au Congo-Brazzaville, deux opposants de la plateforme IDC Frocad se sont déclarés ce week-end candidats au prochain scrutin présidentiel. Il s'agit de Guy Brice Parfait-Kolela, ancien ministre de la fonction publique, et de Clément Mierassa, candidat malheureux à la présidentielle de 2009. Les deux hommes répondent ainsi à la stratégie de multiples candidatures de l'opposition pour espérer battre le président Denis Sassou Nguesso, qui fait encore mystère autour de sa candidature.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, Égypte. Human Rights Watch a accusé aujourd'hui le ministre égyptien de la Justice d'appeler au massacre d'opposants islamistes après qu'il a souhaité à la télévision la mort de dizaines de milliers de frères musulmans. Le 28 janvier, le ministre de la Justice, Ahmed El-Zin, a déclaré à une chaîne de télévision qu'il ne serait pas satisfait tant que 10 000 frères musulmans ne seraient pas tués pour chaque membre des forces de sécurité ayant péri dans un attentat. L'Organisation des droits de l'homme appelle donc le président Abdel Fattah al-Sissi a condamné les propos de son ministre. Algérie, le Parlement a adopté aujourd'hui un projet de révision de la Constitution qui prévoit le rétablissement de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Le président Abdelaziz Bouteflika, 78 ans, pourra donc terminer son 4e quinquennat et briguer un 5e s'il le souhaite. Et puis le Tamazir, une langue berbère parlée par 10 millions de personnes, est maintenant une langue officielle. Mais l'arabe demeure la langue de l'État. En Afghanistan, 3 soldats ont été tués et 8 autres blessés aujourd'hui dans un attentat suicide des talibans contre le minibus qui les transportait près de Mazar-i-Sharif, grande ville du nord de l'Afghanistan. Le kamikaze qui était à pied s'est précipité contre le minibus qui transportait des soldats de l'armée afghane dans le district de Dehadi, dans l'agglomération de Mazar, a déclaré Abdul Razak Kaderi, le chef adjoint de la province de Balkh, dont Mazar-i-Sharif est le chef-lieu. En Haïti, le président Michel Martelly a achevé dimanche son mandat présidentiel sans remettre le pouvoir à un successeur en raison du report des élections. Le processus électoral a été stoppé à la suite des contestations de l'opposition qui dénonçait ce qu'elle appelle un coup d'État électoral fomenté par le pouvoir exécutif. Le second tour de la présidentielle et des législatives partielles, initialement prévu le 27 décembre, a été reporté dans un premier temps au 24 janvier, puis sine die, empêchant donc Martelly de passer le pouvoir à un successeur le 7 février, comme le voulait la Constitution. Et pour terminer, la péninsule de Corée, la marine sud-coréenne a tiré des coups de semonce ce lundi contre patrouilleurs nord-coréens à la frontière maritime disputée entre les deux pays. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.